Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
En France, il a un nom qui peut faire rigoler, mais partout dans le monde, il est surtout un écrivain respecté, avec de nombreux romans constamment réédités. Après son déjeuner chez Tiffany, Stéphane Bern nous raconte Truman Capote, une plume souvent assassine avec laquelle il a rhabillé tout New York pour l'hiver.
Allongé sur un sofa, un jeune Américain de 24 ans au look androgyne nous fixe d'un regard langoureux. Sur la couverture d'un livre intitulé « Les domaines hantés », nous sommes en 1948, c'est son premier roman, et déjà... Truman Capote impose son visage et son style avec cette photo qui fait scandale. Différent, il l'est, il le sait. J'étais si différent des autres, j'imagine que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Au moins sur le papier, je pouvais dire ce que je pensais. Dire ce qu'il pense des autres en particulier, comme Erré, Cancané. Truman Capote est un maître en la matière. C'était la Nouvelle-Orléans que le petit Truman Strictest Persons voit le jour en 1924. Très vite, il se retrouve ballotté entre Lily Mai, une mère puérile qu'il a eue alors qu'elle avait à peine 17 ans, et Arch, un père qui tente des affaires douteuses, parfois même avec les amants de sa femme. Vous l'avez compris, ça bat de l'aile dans le couple, qui finit par divorcer. Pendant ce temps, le petit Truman passe des nuits entières seul, enfermé à clé dans des chambres d'hôtel. Pour s'évader de cette enfance chaotique, il se plonge dans la lecture, qu'il maîtrise dès l'âge de 4 ans. Après un passage en Alabama et l'écriture de quelques nouvelles, Truman est adopté en 1934 par le nouvel amant de sa mère, Joey Capote, et se retrouve propulsé dans une vie bien plus aisée à New York. À 17 ans, il quitte le système scolaire pour travailler comme pigiste au New Yorker. Ses premières nouvelles sont publiées dans Mademoiselle et Harper's Bazaar, et c'est avec Myriam, en juin 1945, qu'il séduit le milieu littéraire new-yorkais. L'année suivante, le voilà à Yaddo, une résidence d'écrivains et d'artistes où il fait la connaissance de Newton Harvin, qui devient rapidement son prof préféré. Les deux hommes entretiennent une liaison pendant 2 ans. Truman Capote approfondit avec lui sa formation littéraire, au point de dire plus tard qu'Harvin a été son Harvard.
Quand vous dites qu'ils ont une liaison, vous voulez dire une liaison
homosexuelle.
De maître à élève ? Ah non, une liaison amoureuse, oui.
Oui, oui, en oui, plus, si oui. Vous voulez, ils ont approfondi.
D'accord.
Son premier roman, sur la couverture duquel il pose donc langoureusement, est un succès. Sa plume ironique et son style sensationnel émoustillent le gratin de la Big Apple. En 1955, Truman Capote intègre le cercle des cygnes, ces jeunes femmes entretenues par de richissimes maris. On y trouve entre autres Marella Caracciolo di Castagneto, la princesse italienne mariée à l'héritier de l'Empire Fiat, ou encore Pamela Churchill, Howard Harriman, dont les charmes ont séduit le baron Eddie Rothschild ou Frank Sinatra. Truman Capote devient leur mascotte. Il est si drôle, si piquant. Quoi de plus distrayant qu'un dandy ouvertement homosexuel qui crache son venin avec esprit sur tout le Gotha du pays? La jet-set lui ouvre les portes de ses yachts et autres palaces. Truman Capote obtient sa consécration littéraire avec la publication de Breakfast at Tiffany's en 1958. Cette romance entre un écrivain et une femme vénale à la recherche d'un homme pouvant la mettre à l'abri du besoin, ce qu'on appellerait aujourd'hui une michetonneuse, est un immense succès. Au point qu'il est porté à l'écran 3 ans plus tard, le titre en français est Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn dans le rôle principal, sublime dans son iconique fourreau noir. Le roman fait dire à l'écrivain Norman Mailer « Capote est l'écrivain le plus parfait de ma génération. Je n'aurais pas changé ne serait-ce que 2 mots à Breakfast at Tiffany's. » En même temps, personne ne le lui a demandé, faut bien
le
dire.
Là, c'est vous qui êtes mauvaise langue, Stéphane.
Ce même Norman Mailer dit de Capote qu'il est aussi acerbe qu'une vieille fille de 60 ans, mais à sa façon, c'est un petit mec qui a des couilles. Le 16 novembre 1959 débute la grande histoire de sa vie. Truman Capote tombe sur un fait divers dans le New York Times. Une famille de fermiers a été assassinée au Kansas. Ni une ni deux, il regroupe ses affaires et monte dans un train le soir même. Le voilà parti en direction de la ville de Holcomb, où s'est déroulé le drame. Là-bas, son ami d'enfance, la romancière Harper Lee, le rejoint. Futur prix Pulitzer, pour ne tirer pas sur l'oiseau moqueur, elle qui connaît bien l'Amérique profonde, aide Truman à s'intégrer. C'est vrai qu'on ne voit pas tous les jours un dandy maniéré de Manhattan chez les bouseux du Kansas. Pendant 5 ans, Truman Capote se lève tous les jours à 4 heures pour aller interroger voisins et enquêteurs. Pas besoin de prendre des notes tant sa mémoire est bonne. De cette expérience, il tire un genre littéraire nouveau, le true crime. Pour la première fois, journalisme et fiction s'entremêlent. Les personnages sont traités avec la psychologie d'un romancier. Le don d'empathie de Capote est tel qu'il s'attache à l'un des deux meurtriers identifiés, Perry Smith, dont il devient carrément le confident et l'ami. Après un procès suivi de 40 minutes de délibération, le jury condamne à mort par pendaison les deux coupables. Le jour de son exécution, en 1965, Perry Smith demande à ce que Truman soit présent. C'est bouffi par l'alcool et rongé par la dépression que celui-ci assiste à ce spectacle traumatisant. Au photographe Cecil Beaton, il confie « Perry et Dick ont été pendus mardi dernier. J'étais là parce qu'ils me l'avaient demandé. Ce fut une épreuve atroce dont je ne me remettrai jamais complètement. » Effectivement, s'il obtient fortune et gloire avec la publication du roman « De sang-froid » qui se vend à 5 millions d'exemplaires aux États-Unis, Truman Capote n'est plus le même. Entre deux rails de cocaïne, lui vient une idée. Écrire un livre sur le beau monde, qu'il fréquente assidûment à la manière de Proust. C'est un gigantesque loupé. Contrairement à l'auteur de la recherche, Truman Capote ne s'embête pas à changer les noms. Et il ne décrit pas minutieusement et subtilement la société qui l'entoure. Non, il crache son venin sur ses amis, amis IES en particulier. Fini le temps des cancans. Voilà venu le grand méchant Capote et il ne fait plus rire personne. Avec La Côte Basque 1965, publié en 1975 dans le magazine Esquire, il divulgue les confidences, les peurs profondes, les chagrins intimes, les signes qu'il avait pris pourtant sous leur aile. Aussi perd-il l'amitié de sa chère Baby Palais, femme d'un mania de la télévision après avoir étalé ses secrets au grand jour. De Coqueluche à Paria, il n'y a qu'un pas. Capote mord la main qui l'a nourri, titre même le New York Times. Tout le monde en prend pour son grade. Même Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont les oreilles qui sifflent. Ce louchon au teint terreux et cette taupe qui sent la jeune fille prolongée. Ces textes, à la fois brillants et blessants, sont regroupés dans le roman « Prières exaucées » publié de façon posthume en 1987, 3 ans après la mort de leur auteur déchu. Même après sa mort, Truman Capote continue de jaser.
Europe 1, historiquement vôtre.